C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à tous et à toutes, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle social media activisme et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Ce matin, on milite sur les réseaux sociaux, on vous présente des comptes d'activistes mais aussi on vous explique qu'est-ce que l'activisme concrètement sur les réseaux sociaux.
Ouais, le social médias, c'est de l'humain, ça on n'arrête pas de le rappeler. Et du coup, sur les plateformes, il y a tout ce qui nous constitue, nous, en tant que communauté. Communauté avec un S, bien sûr, elles sont nombreuses en ligne. Évidemment, il y a du fun, évidemment, il y a du futile, et puis aussi de la colère, des révoltes. Et en quelques années, les réseaux sociaux, Instagram, dernièrement en premier plan, sont devenus le refuge, ou plutôt le piédestal de tous ces activismes. Et ce matin, justement, on va décrypter cette tendance du social media activisme qui est puissante actuellement.
Alors on parle pas du voisin qui gueule sur le chien de votre tante, rien à voir, vraiment des groupements organisés. Pour commencer, je vais te faire une petite définition de qu'est-ce que l'activisme, le social media activisme sur les réseaux sociaux. Donc SMA, le social media activisme est une forme de protestation ou de plaidoyer pour une cause qui utilise les réseaux sociaux comme moyen de communication et d'échange. Ouais. On parle aussi parfois de hashtag activisme pour réduire à l'utilisation et à la transmission des informations. Les trois mots forts à retenir sont la sensibilisation, la solidarité et parfois même la dénonciation à travers l'utilisation de hashtags, de publications et de campagnes social media.
C'est exactement ça, avec quand même, puisque c'est de l'activisme, une logique de passage à l'action.
Exactement. Là, on est juste réseaux sociaux, mais t'es trop fort. Le véritable activisme sur les réseaux est soutenu par des actions in real life, des dons, des engagements mesurables en faveur du changement, des actions de manifestation, des regroupements. Il doit servir un but qui est de regrouper et d'agir concrètement. Et il existe aussi un terme d'ailleurs qui m'a fait marrer pour les activistes qui n'agitent pas concrètement. Ce serait les slacktivistes, voilà, ceux qui font des efforts minimes. Alors, c'est pas forcément à juger, il y a peut-être d'autres raisons. En tout cas, voilà, c'était ma définition. Ouais.
Et le hashtag, effectivement, c'est le cri de ralliement des social media activistes. C'est devenu le cri de ralliement parce que le hashtag, il joue un rôle central aujourd'hui dans la mobilisation des mouvements. Tu l'as dit, on retrouve ce terme, hashtag activisme. Hashtag Black Lives Matter, hashtag MeToo, hashtag Balance ton porc, etc. Il y a un paquet de hashtags.
C'est le bouche à oreille, le hashtag.
Ouais, c'est ça. Et ces hashtags, ils deviennent aussi aujourd'hui des mots d'ordre ou en tout cas, ils cristallisent des engagements contre ou pour quelque chose. C'est très intéressant l'histoire du hashtag justement et de voir comment ce hashtag il s'est transformé de quelque chose qui est très fonctionnel vers quelque chose qui aujourd'hui porte des mouvements. Tout a réellement commencé en 2009. En Iran, en 2009, initialement, rappelons-le, les hashtags, c'était simplement que des sortes de liens hypertextes, qu'on retrouvait sur la plateforme Twitter, et puis une technique de navigation interne à la plateforme, Et c'est en 2009 que le hashtag, il commence à s'imposer comme une sorte de balise communicante forte. En Iran, en 2009, qu'est-ce qui se passe? L'Iran se trouve complètement déchiré suite à des élections très contestées, avec notamment, évidemment, des fraudes. Et du coup, soulèvement populaire massif qui éclate et affrontement dans les rues et aussi, du coup, sur les réseaux sociaux, des gens qui viennent sur Twitter se réfugier, en tout cas donner une autre ligne que la ligne officielle, et certains manifestants du coup décident d'utiliser Twitter pour communiquer leur détermination à faire bouger les choses en Iran avec deux hashtags qui à l'époque sortent du lot. Un premier qui s'appelle hashtag Neda, je sais pas si tu te souviens, NEDA, qui était le prénom d'une jeune manifestante qui s'est retrouvée tuée par la police iranienne, et puis un deuxième hashtag Iran Election, qui s'impose lui aussi et qui devient le catalyseur d'un mouvement qui est né dans la rue et qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, d'ailleurs, on parle de révolution Twitter et ça a été le déclenchement derrière des printemps arabes dans la foulée.
Je suis tombé justement sur un article qui disait passage en revue de 12 ans de révolution par le hashtag. J'ai retenu là-dedans quelques justement hashtags qui collent aujourd'hui à notre sujet de social media activisme avec des petites dates et des chiffres en face. C'est assez intéressant de rallier ces trois points. Donc toi là, tu nous parlais de l'Iran en 2009. Ensuite, on a en janvier 2010, on a eu le hashtag Jeanne comme janvier 25 pour le printemps arabe. Plus de 40 millions de publications qui ont relayé tout ça. En juillet 2013, on retrouvait Occupy Wall Street. Les activistes dénonçaient le capitalisme. Hein, 40 millions de publications aussi. En 2013 encore, la création du mouvement Black Lives Matter. Je parle pas de George Floyd, mais de la création du mouvement. Et au total, sur toute sa durée de vie, c'est 27 milliards de publications. Avril 2014, Bring Back Our Girls, un soulèvement relayé par des influents et des contacts
avec,
Boko Haram
et Madame Obama, exact. Michelle Obama en exactement. Première ligne. On se souvient avec cette pancarte et le hashtag dessus. Bring
voilà. Back. Alors à l'époque, en plus de ça, on prenait une photo pour montrer le hashtag. Donc ça relayait encore plus fortement le message. 15 octobre 2017, le mouvement MeToo refait surface dans les réseaux. 3 milliards de posts au total, monstrueux, qui derrière ramènent toutes les déclinaisons qu'on connaît. Et puis septembre 2020, Climate Strike, 740 millions de publications lorsque des marches pour le climat étaient organisées partout dans le monde simultanément.
Je trouve que c'est fascinant de voir comment, eh bien, effectivement, ces différentes communautés ont utilisé les réseaux sociaux, ont utilisé même les fonctionnalités des réseaux sociaux pour en faire aujourd'hui, eh bien, des porte-voix de leur mouvement. Et le hashtag, c'est vraiment fascinant, l'histoire du hashtag, comment on est passé du fonctionnel à un outil de révolte et d'organisation de cette révolte. C'est passionnant. Et aujourd'hui, bah, Instagram. Alors là, on a parlé de Twitter, initialement Twitter. Et puis là, les choses se déplacent du côté d'Instagram. Hein. Instagram qui devient vraiment aujourd'hui un outil essentiel pour les militants.
Parce que c'est là où tu as le plus de monde aussi. Le plus de public, le plus de mixité, quoi.
Si ouais, totalement. Alors bien sûr, souvent, ces mouvements-là sont un peu partout, hein, parce qu'ils veulent ouvrir le maximum de visibilité à leurs actions. Mais Instagram, c'est un catalyseur. Allez, j'aimerais, si tu permets, qu'on plonge un peu dans quelques comptes de social media activistes. Et je vais parler de peut-être un compte. Je vais parler d'Extinction Rebellion. Voilà, Extinction Rebellion. Il s'agit d'un mouvement d'activistes, d'abord britanniques, et qui aujourd'hui est très actif hein, partout en Europe. XR, comme il se présente, hein, se revendique comme un mouvement de désobéissance civile non violente. Son style, c'est quoi ? C'est marquer les esprits pour faire bouger les lignes sur les sujets, notamment les sujets écologiques. Hein, c'est ça le sujet. Alors qu'est-ce qu'on ? Ils ont des actions concrètes hein, sur le terrain. Faussons déversés, cercueils déambulants dans les rues, blocage de périphériques parisiens à vélo, etc. Beaucoup d'actions assez choc. Et Extinction Rebellion, c'est une organisation sans visage connu. C'est ça la particularité de cette organisation-là. Une pure organisation communautaire qui forcément eh ben, met à profit les réseaux sociaux, les plateformes sociales pour organiser et rendre visibles ces actions. Et à ce titre, passionnant, hein, je suis allé étudier leur site internet, étudier leurs réseaux sociaux. Sur leur site internet, ils expliquent que toute personne qui souhaite se lancer dans une action, organiser une action, doit suivre un manuel pour permettre l'auto-organisation d'actions de désobéissance civile. Donc il y a un manuel qui est mis à disposition, que tu peux télécharger, que je vous mets le lien directement vers ce manuel, et vous pourrez aller voir qu'on y trouve notamment des conseils très précis sur la manière de communiquer ses actions sur les réseaux sociaux.
Et c'est le manuel, un guide en fait.
Exactement. Et le manuel précise par exemple que chaque action XR doit intégrer un vidéaste photographe systématiquement. Il y a aussi une réflexion autour des hashtags, de comment rendre visible et embarquer les gens. Donc on le voit, tout ça a été théorisé, en tout cas fait partie des préceptes, des manières d'organiser. Ce sont des activistes sur les réseaux sociaux. Ils sont très organisés et ils maîtrisent parfaitement les médias. Hein.
On retrouve là dans ce que tu dis, le fait d'avoir un photographe avec soi et tout, c'est aussi pour la défense s'il y a procès ou autre, d'avoir toujours quelqu'un qui est là, qui est témoin, pour montrer ce qui se passe vraiment en live, mais aussi pour illustrer tout ça dans le temps.
Ouais, exactement. Alors sur Instagram, on peut les retrouver @extinctionrebellionfrance, 73 000 abonnés. Je vous mets là aussi le lien vers leur compte si vous voulez aller voir ça. Mais il y a aussi des comptes locaux extrêmement puissants, hein, comme XR Lyon, XR Lille, etc. Donc tout un maillage régional qui s'organise autour du compte Maire France, et c'est très bien organisé. Hein. Là, je trouve que certaines marques pourraient prendre des leçons sur la manière de structurer un organigramme ou une prise de parole nationale et régionale. C'est vachement bien fait. Et qu'est-ce qu'on trouve sur leur compte ? Eh ben, évidemment, des récaps d'action, des appels à l'action, plaidoyer sur un certain nombre de sujets sur lesquels il milite. C'est extrêmement extrêmement efficace, c'est très bien fait, et là aussi pareil, il y a une belle prod de contenu avec beaucoup de moyens, énormément de contenu, et on sent effectivement que ces communautés, elles sont extrêmement vivantes sur leur compte Instagram. Hein.
Ok, ben trop bien. À checker. Moi, je vais te parler. Je pense que t'as aussi un compte dans le même genre. Je vais te parler du compte La Nuit Remue Paris. C'est un compte activiste féministe. Donc c'est le compte d'une illustratrice qui se définit donc comme illustratrice et activiste féministe. Elle dessine des BD humoristiques engagées et colorées sur Instagram. Grâce à ses études de sociologie, d'histoire de l'art et d'histoire de l'art, elle vulgarise des concepts hein, au moyen de la BD. On sait que c'est un des meilleurs moyens aussi pour communiquer facilement. Et sur son compte, donc très très joli hein, à regarder, beaucoup de dessins, très tendance, du carrousel, de la vidéo. Il y a vraiment pas mal de trucs super sympas. Elle aborde notamment les sujets d'avortement, de parité, d'agisme, soutient largement les causes LGBTQIA. Donc énormément de sujets sur son compte à regarder. Elle est également la dessinatrice du logo du mouvement Collage Féminicide. Donc elle soutient largement tout ça. Elle milite, elle communique les actions qui se passent, elle les retransmet. Donc à aller consulter La Nuit Remue Paris.
Ouais, parce que c'est aussi ça le social media activisme. D'un côté, des organisations, on va dire Extinction Rebellion, pardon, très organisé avec vraiment un mouvement derrière, et puis aussi des acteurs individuels qui
mouvement plus large,
voilà, qui se font le relais hein, d'un certain nombre de causes. Parmi celles-ci, eh bien, il y a Nous Toutes. Je pense que tu connais, Camille. Ouais. Nous Toutes, c'est un collectif féministe hein, qui est constitué d'activistes. Et l'objectif de ce collectif, eh bien, c'est d'en finir avec les violences sexistes. C'est un collectif qui a été créé en 2018 hein, suite au mouvement hashtag MeToo, hashtag balance ton porc, hein, des mouvements qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et ça, c'est la suite, on va dire, de ces mouvements-là. On peut les retrouver sur Instagram, @noustoutes.org. 417 000 abonnés sur Instagram. Hein, c'est quand même solide, hein, c'est pas de la blague. Et là aussi, on trouve une stratégie social media très organisée, avec une page mère, noustoutes.org, et puis un certain nombre de comptes pareils. Instagram locaux, noustoutes Lyon, noustoutes 67, etc., noustoutes 74. Il y a un nombre d'actions locales. Et sur ces comptes, eh ben, on trouve des contenus de sensibilisation, bien sûr, sur ce sujet-là. Mais plus que ça, on trouve surtout des appels à l'action très concrètes, à manifester, à faire du collage, à agir. Et ça, ça se passe en vidéo, en post, en reels, franchement, à peu près tous les formats. Grosse maîtrise, là aussi, des outils. Nous toutes, ils sont aussi sur TikTok, par exemple. Ils sont vraiment sur toutes les plateformes. L'enjeu, ce qu'on constate bien quand même quand on regarde ces comptes-là, c'est que l'enjeu pour cette typologie de mouvement, c'est faire d'Instagram un moyen plus que la fin en elle-même. C'est de dire, nous, on veut pas être seulement un média d'information, de sensibilisation, on veut utiliser...
On veut montrer que ça change.
Et on veut utiliser la plateforme comme un catalyseur pour passer à l'action et faire des actions dans la vraie vie. C'est ça qui est très intéressant. Nous toutes, évidemment, ils ont un hashtag fédérateur, hein, c'est hashtag nous toutes. D'ailleurs, le mouvement, c'est hashtag nous toutes, hein, en fait, ce collectif. Ouais. Donc, quand le hashtag devient carrément un enjeu collectif, hein, et le hashtag, bah, ça rassemble quand même 64 000 publications sur Instagram. Voilà. C'est typiquement le genre de social media activisme qu'on croise aujourd'hui.
Il y a un compte auquel j'ai pensé hier, que j'ai pas creusé ce matin, et là, ça vient de me revenir. On a reçu ici une social media activiste.
Bien sûr. Alors, c'est ton agency.
Exactement. Ouais. Donc, épisode 568 à réécouter pour ceux qui l'ont pas vu. C'était Balance ton agency. Donc là, c'est un compte activiste pour le bien-être au travail et la dénonciation des problèmes qu'il peut y avoir dans la hiérarchie au travail. Tout ce qui va être,
absolument, et notamment
tout
dans le monde, milieu de la communication.
Voilà, et notamment, surtout, puisque Balance ton agency, dans le milieu des agences de com françaises, avec à chaque fois un certain nombre de dénonciations, un certain nombre de témoignages qui arrivent et qui sont exposés, avec le suivi de l'affaire, le suivi des problèmes. À chaque fois, elle lâche rien quand il y a un problème, elle traite, on va dire, les agences une par une. On l'avait reçue à l'époque, c'était très marrant d'ailleurs de constater qu'elle était anonyme à l'époque. Depuis, elle a fait son coming out, elle assume complètement sa personnalité, et puis il y a aucun problème pour elle de le faire. Et ça renforce encore plus le compte. Hein. C'est bientôt 100 000 abonnés, je crois. Ça a vraiment fait bouger les choses de ce côté-là.
Ouais, hashtag typiquement, hashtag Balanchton Agency, là aussi, il y a un tourmoiement, on va dire, de social media activistes qui est celui de dire, je veux pas que ça soit que de l'Instagram.
Ouais.
Je veux pas que ça soit que un joli compte avec des belles citations et un truc qui fait du drama en ligne. Il faut que ça fasse changer les choses. Et là, force est de constater que ce mouvement-là, très spécifique, très niche sur une communauté donnée qui est les acteurs de la communication, eh bien, a eu un impact indéniablement.
Parce que elle, déjà, elle était anonyme et déjà, ça faisait déjà bouger les choses. Mais souvent, on retrouvait les trucs dans les défenses. Tu te caches derrière ton compte, tu n'oses pas te montrer. Donc
bien sûr,
c'est complètement montré et on voit que elle a elle-même des problèmes, mais elle va au bout. Et il y a beaucoup de choses qui changent, donc c'est super bien.
Est-ce que tu as d'autres comptes que tu souhaitais de social media activistes dont tu souhaitais nous parler ce matin?
J'en ai un peu particulier. On pourrait ne pas y voir de l'activisme, mais pour moi, ce n'est à ne point douter, c'est de l'activisme sur la sexualité. Le compte, c'est Orgasme et moi. Sur son compte, Charline éduque sur les différents aspects de la sexualité, mais aussi tous les clichés et enjeux sociétaux très actuels, la non-binarité, l'acceptation de soi, les limites du consentement, l'inceste, mais avec beaucoup de bienveillance et la bienveillance. Insta, c'est son moyen de communiquer autour de ces sujets online, mais elle libère aussi la parole lors d'événements auprès d'étudiants, récemment dans un livre pour les plus de 10 ans. Donc, c'est de l'activisme très large pour éduquer et forcer la bienveillance. Donc, pour moi, c'est très clair. Il y a un vrai combat derrière et ça reste de l'activisme.
Allez, pour conclure cet épisode sur social media activisme, je suis obligé de remettre ma casquette de marketeur. La question pour les marques, peut-on faire du business sans prendre position? Tiens, voilà un cas d'école, en tout cas une étude philosophique pour vous, hein. Parce qu'en préparant cet épisode, je suis retombé sur un rapport qui date d'il y a 3 ans. Maintenant, c'est le rapport Edelman Earned Brand. Voilà, je vous mets le lien en note de cet épisode, hein. Et dans l'étude, on apprend que près de 2/3 des consommateurs pensent qu'il est important pour les marques de prendre position sur les questions sociétales, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions fondamentales chez les marques. Et on pense forcément du coup à Nike et à l'affaire Kaepernick qui avait fait couler beaucoup d'encre et pour lequel on avait déjà fait un épisode du Super Daily. On est en 2018, Nike choisit de mettre en avant dans une campagne de pub de très grande ampleur un joueur de football américain qui pro Black Lives Matter qui s'appelle Kaepernick.
Alors j'avais 2 autres, donc j'avais celui-là. Voilà, c'est vrai qu'on l'a retrouvé souvent. On montre le lien entre avec Kaepernick, c'est une très bonne entrée entre le lien une marque et une cause internationale. On a aussi lors de la grève pour le climat en septembre dernier, en 2020, des marques comme Patagonia, Lush, Seven Generation ont fermé des magasins, ils se sont éteints online et ont fait don d'espace publicitaire au mouvement pour afficher leur soutien. Ça a été très fort dans leur communication. Lush, on se souvient, de gros messages bien bold. En juillet 2020, la marque Thermacotta s'engager aussi dans une lutte pour la transparence des prix, puisque c'était un gros sujet, en affichant sur un post Insta un espèce de ticket de caisse avec le détail de ses taxes, le détail de ses contributions, le détail de ses aides à des associations et sa marge finale en toute décomplexitude. Donc voilà, les marques aussi y vont et ça les sert.
Sujet complexe en tout cas, oui. Tu vois, est-ce que vraiment ça sert les marques? Est-ce qu'elles sont légitimes?
Là, oui.
On en avait déjà parlé le cas de Nike. Mais alors dans le cas de Nike, tiens, c'est intéressant parce que la prise de risque, elle était importante. À la clé, il y a eu une polémique énorme quand même autour de ce Nike Kaepernick. Mais il y a eu un impact positif en termes de business parce que c'est ça quand même qui intéresse une marque à un moment donné. Hein. Dans les mois qui ont suivi, la marque, elle a bénéficié d'une hausse de fréquentation de son site internet, de ses interactions sur les réseaux sociaux. Et la campagne, elle a eu un retentissement majeur au-delà du territoire américain et elle a permis sans doute pour Nike de trouver un angle pour s'adresser à un public, à des communautés auxquelles elle avait du mal à s'adresser, clairement. C'était l'objectif, faut pas se leurrer, ouais. À un moment donné, les communicants, ils font pas ça que pour la beauté du geste. Il y avait un objectif, s'adresser à une communauté plus jeune et puis non blanche, hein, et là, ils y sont parvenus avec cette campagne.
Ouais, et tu parlais de Black Lives Matter, hein, les deux sont liés. On avait fait un épisode le 3 juin 2020, épisode numéro 402. Les marques peuvent-elles expriment leur solidarité, mais peuvent-elles apporter un réel changement? Et justement, là-dessus, on pointait du doigt en particulier des marques qui ont sauté le pas du Black Lives Matter, du carré noir, mais qui n'avaient aucune légitimité à le faire.
Et qui se sont fait dégommer à juste titre.
Et dans ces cas-là, donc c'est super intéressant de le réécouter, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre de la distance avec tout ça et faire très attention à notre com.
Voilà les amis, écouter épisode Le Point Levé, ou en tout cas épisode on espère qui aura permis de vous éclairer hein, sur ce qui se passe du côté d'Instagram en ce moment. Instagram qui vraiment devient encore une fois le piédestal, le QG des social media activistes. On serait très heureux d'en échanger avec vous sur les réseaux sociaux @supernatif.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, à peu près partout. Venez nous poser vos questions.
Voilà, merci à vous tous d'être si nombreux à nous écouter chaque matin. Ça nous fait chaud au cœur. N'hésitez pas à partager cet épisode avec une pote, avec un pote. Et puis, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, allez, on a un service à vous demander, s'il vous plaît. Mettez-nous 5 étoiles avec un joli petit commentaire. Ça nous fait plaisir. Ça fait du bien à nos petits cœurs. Et puis, ça fait du bien aussi à l'algorithme. Voilà, ce qui ne cache rien. Merci à vous tous. On vous souhaite une très belle journée, un beau week-end.
Allez, ciao.
Salut tout le monde, ciao.